Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Interlocuteur, interlocutrice, j'espère que le sujet abordé vous a plu et qu'il vous a appris de nouvelles choses sur la place de la femme dans l'art. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous conseille de lire un livre très intéressant, L'art du féminisme, les images qui ont façonné le combat pour l'égalité, de Lucinda Gosling. Je vous retrouve prochainement.
Merci beaucoup pour cette intervention très enrichissante. Je peux vous assurer que je dormirai moins bête ce soir. C'est à toi, Lilou. Comment évolue la notion de patrimoine et quels sont les dangers qui le menace de nos jours?
Bonjour et merci de m'avoir accueilli sur le plateau de Culture Flip. Tout d'abord, je vais vous définir ce qu'est le patrimoine mondial. Il désigne l'ensemble de biens, matériels ou immatériels, qui permet d'établir un lien entre les générations. Il est le produit de l'histoire, d'un territoire ou d'un groupe social. Il connaît depuis plusieurs décennies un engouement qui se traduit par des enjeux d'ordre politique et géopolitique. Dans une première partie, j'aborderai quelles sont les différentes causes de dégradation des patrimoines. Aujourd'hui, nombreuses sont les causes de cette dégradation.
Du coup, quelles sont-elles ?
Elles peuvent être source d'ignorance, d'indifférence, de guerre et de conflits, d'interventions humaines, d'incendies ainsi que de catastrophes naturelles qui sont aussi des menaces pour le patrimoine. Des facteurs socioculturels de la dégradation du patrimoine y interviennent, tels que la contribution directe et indirecte de la population à des proportions alarmantes dans la dégradation du patrimoine architectural qui s'accentue dans le temps. Elle est inversement relative à la diminution du sens du civisme des gens.
C'est de plus en plus présent aujourd'hui en plus.
Oui, les actes de dégradation et leurs causes ont des facettes multiples et portent sur différents éléments de l'héritage architectural. Prenons l'exemple de l'article provenant d'Europress concernant les régions passées sous le contrôle de Daesh, où toutes les églises ont été vandalisées. Ici, nous avons un exemple de dégradation humaine, tout comme le vol. C'est le cas aussi pour Rio Tinto, une réputation dynamitée provenant du monde, où l'entreprise est dans la tourmente pour avoir détruit des grottes aborigènes préhistoriques en Australie. Je vais maintenant aborder comment valoriser et protéger un patrimoine qui est parfois menacé. Alors, la mise en valeur du patrimoine constitue un axe central de développement et la reconstruction de l'image d'un territoire en difficulté. Il s'agit de mettre en valeur les atouts culturels et les richesses patrimoniales qui valorisent un territoire et construisent son identité. Le patrimoine culturel représente une richesse réelle et incontournable d'un pays. Il s'intéresse aux problèmes de sous-développement et d'amélioration des conditions de la société. Cela concerne les régions qui souffrent de nombreux problèmes.
Quels sont ces problèmes ?
On peut retrouver le chômage, la pauvreté, l'instabilité politique, le manque de sécurité et de mise en ordre de la société, les inégalités régionales. Ainsi, les difficultés territoriales peuvent varier selon les régions et leur localisation, urbaine, rurale, littorale ou encore montagnarde.
Quels sont les espaces les plus fragiles ?
Généralement, les espaces ruraux sont les plus fragiles. Ils n'ont pas les moyens efficaces pour protéger leurs ressources naturelles et culturelles. Le patrimoine possède une valeur pour ses caractéristiques propres et aussi pour ce qu'il évoque et représente. Nous pouvons et devons le conserver, il a besoin d'être protégé, car la perte du patrimoine est la perte d'une part de notre identité. Notre regard sur le passé et sur l'avenir détermine les choix de transmission que nous faisons aux générations futures. Chacun peut protéger le patrimoine, mais comme c'est un bien collectif, il importe aussi que des organismes publics le protègent. Tout le monde est responsable de la conservation de notre patrimoine mondial. Grâce au partage des tâches, les rôles sont répartis et la responsabilité devient bien plus légère à porter pour chacun. Il peut s'agir par exemple de réaliser une tâche par semaine qui préserverait nos monuments, espaces naturels comme le ramassage de déchets et tout simplement faire preuve de civisme et de respect. Prenons l'exemple maintenant sur l'article de presse suivant, le Deauville Yacht Club s'est modernisé, où ici le président du Deauville Yacht Club présente le nouveau club qui s'intègre bien dans le projet de la presqu'île. Tout est réuni pour rêver à de grandes ambitions après un certain travail de décor, d'ambiance qui donne envie aux gens de venir découvrir ce lieu et de faire en sorte qu'il ne se dégrade pas trop dans le temps. Je pense que ce sujet demande une certaine réflexion dans la mesure où il doit rester disponible pour chacun et rester le plus naturel possible, comme pour les espaces naturels, qui font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je recommande la lecture du livre s'intitulant « Le patrimoine mondial, que sais-je » de Dominique Audrery. Ensuite, on peut donc finir par dire que la reconnaissance internationale du savoir-faire est révélatrice de l'évolution de la notion de patrimoine et que l'implication humaine y représente une bonne part dans notre monde actuel.
Voilà, je vous remercie pour vos sujets. Quant à moi, je vais vous exprimer pourquoi l'anonymat est un art. Voilà, chers auditeurs, comme je vous l'ai dit au début de cette émission, aujourd'hui j'ai eu l'envie de vous parler de quelque chose qui m'a fortement intéressé, que comme vous êtes des personnes avides de savoir et de culture, je suis convaincu que vous apprécierez ce sujet qui est l'anonymat des artistes. Alors vous allez me dire, Arthur, comment c'est possible d'être un artiste et anonyme en même temps? Et là, moi je vous réponds Banksy, Daft Punk, Sia ou Montesquieu. Et pourquoi certains artistes tiennent tant à leur anonymat? Tout d'abord, certains d'entre eux le gardent pour juste laisser parler l'art. On a sur cela l'exemple de l'artiste de rue Banksy, ce personnage si mystérieux qui est si talentueux et pourtant personne ne pourrait mettre un nom ou un visage à ce pseudonyme. On se souvient notamment de son autodestruction d'œuvres après une vente aux enchères. Pareillement pour le groupe d'électro Daft Punk qui est désormais mondialement connu avec leur titre Around the World, Get Lucky en featuring avec Pharrell Williams ou encore Stronger en featuring avec Kanye West. Et malgré tout ce succès, les deux Français Guy Manuel de Omem Cristo et Thomas Bangalter ne s'occupent que de leur art qui est la musique et qui est totalement différente de n'importe quel artiste. C'est simple, une musique d'eux et on sait que c'est signé Daft Punk. L'esthétique compte, certaines personnalités anonymes misent aussi beaucoup sur leur identité visuelle comme Daft Punk, comme par exemple Gorillaz avec leur personnage de version animée ou encore la chanteuse Sia à l'époque qui se cachait sous une coupe de cheveux avec une énorme frange atypique. Ensuite, en 1721, suite à un dépôt légal déposé par François Ier pour contrôler les œuvres artistiques, l'écrivain Charles-Louis de Montesquieu publie « Les lettres personnes », un soi-disant recueil anonyme qui critique la société française de l'époque au niveau de l'Église et de l'État. Et pourtant, il s'agit bien d'un ouvrage de l'unique vision de Montesquieu, qui faisait apparaître ceci comme des recueils de Français contre la royauté de l'époque afin de ne pas être censuré et emprisonné ou exilé par la suite.
Super la liberté d'expression!
Tu l'as dit, quelques années plus tard, un poète nommé Thomas Chatterton, grand faussaire de littérature, se donne un pseudonyme afin de rester anonyme en créant un personnage, Thomas Rowley, un moine du XVe siècle. Ce moine imaginaire crée des poèmes avec un sublime anglais médiéval sur de faux manuscrits, ses lecteurs sont sous l'illusion, et Chatterton ne pourra se défaire de ce mystérieux personnage du moine du XVe siècle. C'est là que nous constatons que les artistes anonymes existent depuis plusieurs siècles, du temps de la royauté jusqu'à maintenant. Les raisons sont différentes, et toutes aussi respectables une que les autres, que ce soit pour leur pour laisser parler juste un art, pouvoir passer des messages ou être contre une idéologie. Personnellement, je trouve ça juste fascinant que l'anonymat ait été pensé à toutes les époques et que cela est plus subtil et intéressant. À vrai dire, je ne savais pas que l'anonymat des artistes était beaucoup plus profond que je ne le pensais. Et j'espère que cela vous a intéressé et vous a appris quelque chose.
Merci Arthur.
Si vous avez l'envie d'en savoir plus sur le sujet, je vous conseille le livre de Frédéric Lambert qui se nomme « Figure de l'anonymat ». Vous trouverez beaucoup plus d'histoires sur les personnalités anonymes. Je vous conseille aussi la vidéo YouTube de France Culture. Vous avez ces illustres artistes qui revendiquent l'anonymat, et ça, c'est si vous aimez pas trop lire. Voilà, merci à vous, chers auditeurs, de m'avoir écouté. J'espère pouvoir vous retrouver très vite. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web radio studiogaco.fr. N'hésitez pas à réagir sur notre feed Twitter Gaco Studio. Voilà. Au revoir à tous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.